Voici l'Europe, Caroline de Camaret.
Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe. Nous sommes ensemble sur France 24 et Radio France Internationale. Alors cette semaine, je vous propose de prendre un peu de recul sur l'actualité européenne, car nous sommes en compagnie d'Arantxa González-Laya. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, je le rappelle, la doyenne de l'École des affaires internationales de Sciences Po. Vous avez occupé de nombreux postes de direction pour les Nations Unies, la Commission européenne. Et d'ailleurs, vous êtes ancienne ministre des Affaires étrangères entre 2020 et 2021 du gouvernement espagnol de Pedro Sánchez, gouvernement socialiste. Je précise d'ailleurs qu'on commence sur une actualité très espagnole, si vous nous le permettez. Dans la guerre Israël-Hamas, l'Espagne est déterminée à reconnaître l'État de Palestine au 1er juillet et Pedro Sánchez invite ses voisins européens à suivre cette initiative. Rappelons que 10 pays sur les 27 membres de l'Union européenne ont reconnu la Palestine, surtout à l'époque où ils étaient dans la sphère donc soviétique. Est-ce que vous pensez que l'Union européenne va suivre cette idée, les 27 suivre cette idée ?
Bon, disons que les 27 sont d'accord sur le fait qu'il faut reconnaître la Palestine. C'est implicite dans l'idée des deux États. Là où il y avait toujours aussi une position de la part des États membres de l'Union européenne, c'est de le faire au bon moment, quand cette reconnaissance pouvait servir à ancrer la solution de deux États. C'est vrai que peut-être la situation a changé aujourd'hui, parce que les enjeux aujourd'hui, ce n'est pas tellement d'ancrer la solution de deux États, mais de la rendre possible pour le futur.
Donc, le bon moment, vous dites.
Et donc, peut-être que le moment est venu de le faire. En tout cas, c'est clairement la vue qu'on a en Espagne. Il y a d'autres États membres qui voient avec sympathie aussi l'idée de le faire maintenant.
Et la France ?
Et je crois que c'est une question qui va se poser aux autres membres de l'Union européenne. Encore une fois, ce n'est pas une question de si le faire, mais quand le faire. Je crois qu'aujourd'hui, peut-être le faire rendrait possible de garder vivante la solution de deux États qui, pour l'instant, est la seule solution qui est sur la table.
Alors, vous êtes une passionnée de diplomatie. Vous avez écrit un éditorial enjoignant les Européens à se préparer à une nouvelle ère Trump, puisqu'il pourrait être réélu, bien sûr, en novembre, et un abandon de l'Union européenne par les États-Unis. On se prépare comment à être abandonné par les États-Unis ?
Je crois qu'on est dans un moment de notre histoire, un peu dans un carrefour des chemins. Et il faut décider quel chemin nous, Européens, nous prenons. Est-ce que nous prenons les chemins de prendre notre destin entre nos mains, ou est-ce que nous laissons d'autres dessiner notre destin ? Est-ce que c'est les électeurs américains, à la fin de cette année, qu'ils choisissent Trump ou Biden, ou est-ce qu'on met notre destin dans les mains de la Chine, où on ne fait pas des élections ? Donc, c'est un peu le sens de cette élection européenne du mois de juin. Où mettons-nous les futurs de l'Union européenne ? Et nous savons, et ça, c'est l'histoire de notre construction européenne, mais aussi l'histoire récente de l'Union européenne, que quand nous avons fait des pas supplémentaires d'intégration européenne, quand nous sommes devenus plus forts à travers l'intégration européenne, nous sommes plus capables de prendre notre destin
mais
à nos mains.
Quel impact d'un Trump 2 sur la guerre en Ukraine ? Est-ce que vous croyez que finalement ça aura un impact catastrophique que nous annoncent beaucoup d'observateurs.
Bon, ce que nous voyons, et c'est une tendance à long terme, et du coup ça a un impact aussi dans les courts termes qui est l'Ukraine, c'est une tendance isolationniste aux États-Unis. Un désintérêt pour les affaires, d'autres théâtres d'opération qui ne soient pas les États-Unis, ou leur grande priorité géopolitique qui est la Chine. Si c'est ça ce que nous observons, nous ferions bien de nous préparer. Et nous préparer, ça veut dire étoffer un peu plus notre politique de sécurité et de défense, être capable de prendre plus de responsabilités européennes à l'intérieur de l'OTAN et franchement, intégrer plus notre industrie de défense et de sécurité, toute l'industrie en Europe qui est très bonne et très compétitive, mais trop fragmentée pour être capable aujourd'hui d'être un concurrent aux grands industries au monde, que ce soit les États-Unis ou que ce soit la Chine.
Vous avez certainement suivi ce vote un peu crucial. Le 10 avril dernier, le pacte migration et asile a été voté par le Parlement européen, accouché dans la douleur après 4 ans de négociations. Cela est salué, bien sûr, par la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, mais il a suscité beaucoup de critiques et mobilisé les eurodéputés que nous avions réunis pour un débat. Alors, contre ce pacte, Raphaël Glucksmann pour les socialistes, suivi de Fabrice Leggeri pour le Rassemblement national pour des raisons diamétralement opposées, de Marie Toussaint. Et alors, franchement, pour Valérie Ayer de la majorité présidentielle, on les écoute.
Le désordre, c'est ce qu'on appelle le système de Dublin, qui fait peser toute la responsabilité sur les pays d'entrée. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est une véritable politique migratoire européenne, mais qui rompe avec l'hypocrisie, qui rompe avec les slogans sur l'immigration zéro, qui admette les faits. Et les faits, c'est que nous avons besoin de voies légales d'immigration. Le problème de ce pacte asile-immigration, c'est qu'en réalité, il ne répond à aucune des questions, ni à l'indignité, ni au désordre.
En réalité, le pacte asile-migration ne résout rien. C'est une tromperie politique et inhumaine. Parce que la vraie solution, ce serait de permettre à des personnes en besoin de protection internationale de faire leur demande d'asile dans des consulats de pays européens hors d'Europe, au plus près de la zone dans laquelle ils sont en danger, de manière à éviter que ces personnes tombent entre les mains de groupes criminels et mettent leur vie en danger. C'est ça l'humanité.
Monsieur Leggeri, pendant que vous étiez à la tête de Frontex, ça a été 10 000 personnes qui ont trouvé la mort. Qu'est-ce que vous venez nous raconter ici en disant qu'il y a des gens qui peuvent demander l'asile alors qu'ils sont persécutés dans des pays comme l'Afghanistan, comme l'Irak ou la Syrie? La réalité, c'est que ce que vous faites, c'est que vous les mettez encore plus en danger, monsieur Leggeri.
Je soutiens ce pacte asile-immigration parce qu'il va nous permettre de mieux contrôler nos frontières, de mieux gérer les flux migratoires irréguliers avec humanité et efficacité. Et au fond, de ne pas laisser les réseaux de passeurs décider à notre place. Et j'assume ce vote. Monsieur Bellamy à droite, vous refusez de soutenir ce texte parce qu'au fond, vous courez toujours plus derrière l'extrême droite.
Non,
et malheureusement,
sûr,
on en a la démonstration supplémentaire ici. Et la gauche, avec la gauche, on est toujours dans la naïveté et dans l'inaction.
Alors, une bonne ou une mauvaise nouvelle, selon vous, pour l'Union européenne, ce pacte asile-migration accouché dans la douleur, on l'a dit, mais avant les élections européennes quand même.
Soyons sérieux, nous avons un problème, pas avec la migration, nous avons un problème avec la gestion de la migration, et je trouve que ces pactes n'étant pas parfaits, a trouvé un point d'équilibre sur des sujets majeurs, celui de la responsabilité des États membres de l'Union européenne et pas simplement celui qui, de pays qui sont les pays des premières entrées dans l'espace européen, mais aussi le point d'équilibre dans la solidarité européenne, puisque c'est une politique où nous devons aussi exercer des doses de solidarité comme pour toute politique européenne. Ce n'est pas parfait, c'est clair, mais je trouve qu'on donne un signal clair de la capacité aussi des États membres de l'Union européenne de s'entendre pour assurer une meilleure gouvernance des flux migratoires. C'est certainement mieux que de ne pas avoir une gouvernance pour la migration en Europe.
La réforme, quand même, effectivement, interpelle un certain nombre d'ONG. La hausse des demandes d'asile est bien là, plus d'un million en 2023. Le renvoi possible un pays d'un demandeur d'asile vers un pays tiers considéré comme sûr. Il y a beaucoup de pays qui sont considérés comme sûrs et qui ne sont pas très démocratiques, il faut le dire.
Bon, en matière des politiques d'asile, l'Union européenne a aussi des engagements internationaux. Ce n'est pas l'Union européenne qui définit les règles. L'Union européenne les met en place. Les règles en matière d'asile, c'est des règles internationales. Il y a des engagements que l'Union européenne et tous ses États membres ont pris au sein de l'ONU. Alors, il s'agit simplement de trouver la meilleure manière de le mettre en place. Encore une fois, on n'est pas dans les domaines du parfait. On est conscient que même la manière dont on applique les règles internationales ne sont pas parfaites. Mais nous avons aussi été capables de trouver un compromis sur un sujet qui est difficile et tellement qu'on a pris beaucoup d'années à les construire. Donc, essayons de partir de ces points communs qu'on a trouvés, et s'il faut perfectionner, perfectionnons, mais soyons aussi clairs, on est arrivé à mettre de l'ordre dans un domaine qui va rassurer nos citoyens et qui va aussi nous rendre un peu plus responsables vis-à-vis nos partenaires internationaux.
Alors, justement, ce thème, il va être utilisé, bien sûr, comme thème de campagne de prédilection de l'extrême droite, une extrême droite qui caracole en tête des sondages en France. Jordan Bardella crédité de 30%. Et d'ailleurs, aussi dans un tiers des pays européens, les 27. Pourquoi, selon vous ?
Moi, quand je regarde ce sondage, et surtout quand je regarde les sondages français, moi, ce qui me préoccupe, c'est qu'il y a une forte baisse de la participation attendue des citoyens européens dans les élections européennes. On est à 44% des participations des citoyens français. C'est en baisse par rapport à la dernière fois où on avait vu l'effet contraire, une augmentation. Et pourquoi ? La dernière fois, en 2019, parce que les citoyens français avaient mis comme prioritaire les pactes verts. Et c'est ça dont on avait parlé, c'est de ça dont on avait parlé pendant la campagne électorale. Cette fois-ci, ce qu'on voit, c'est une diminution de la participation des citoyens. Et pourquoi ? Peut-être parce qu'on n'est pas en train de parler des vraies préoccupations des citoyens. Donc, peut-être il faudrait être un peu plus sensible aux préoccupations de nos citoyens. Je crois que l'économie, les pouvoirs d'achat, la sécurité, on voit bien qu'il y a une guerre à côté de l'Union européenne et ça préoccupe les citoyens européens et franchement, les changements climatiques. Moi, qui vis dans une université et je suis entourée des jeunes, eux, la préoccupation, c'est la planète qu'ils vont hériter demain. Et pour eux, la préoccupation, c'est les changements climatiques. Or, plutôt que parler de ces sujets, on offre l'offre politique dans une partie importante de notre spectre politique, surtout à l'extrême droite, c'est les wokismes, c'est les grands changements démographiques, c'est la migration. Oui, bien sûr, mais mettons aussi l'accent sur là où nos citoyens ont des interrogations et peut-être on verrait augmenter les taux de participation.
Surtout les plus jeunes, en effet, qui participent souvent moins à ce scrutin. Effectivement, à 2 mois du scrutin, la candidate des droites européennes au Parti populaire européen, c'est Ursula von der Leyen, l'actuelle présidente de la Commission européenne. Et elle doit se multiplier sur tous les fronts où elle est attaquée. Certains commissaires et une partie du Parlement européen lui ont reproché d'avoir nommé Markus Pieper, représentant de l'UE pour les PME, alors qu'il était moins bien noté des candidats qui se sont présentés pour ce poste, mais qu'il appartenait à sa famille politique, le PPE. Une nomination donc très politique, ça vous choque ?
Moi, je ne connais pas les détails, donc ça serait un peu peu judicieux de ma part de commenter sur ça. Ce que je note, c'est que la présidence de la Commission européenne nécessite une double investiture. Nécessite l'investiture de la part du Parlement européen et nécessite le soutien par consensus des États membres de l'Union
d'abord,
européenne.
Préalable.
Donc c'est de ça qu'il s'agit. N'importe qui voudrait être candidat à la présidence de la Commission européenne. Je crois qu'elle est clairement candidate et qu'elle a passé 5 ans à la tête de la Commission. Donc elle a des choses à mettre sur la table, des atouts à mettre sur la table. Mais tout candidat serait avisé, c'est cette double légitimité qu'il lui faut.
Son second mandat n'est pas assuré, selon vous ?
Non, je ne commente pas. Il faudrait avoir cette discussion sur la base des résultats des élections. Mais c'est vrai que la dernière fois, encore une fois, moi je peux regarder ce qui s'est passé la dernière fois. La présidente de la Commission a passé la légitimité au Parlement européen avec 8 voix. 8 voix. Ah, 8 voix. C'est fragile.
Comment vous voyez d'ailleurs la recomposition du Parlement européen et des autres institutions, telles que nous l'annoncent un peu les sondages, post-élection du 9 juin ?
Non, je crois que les sondages nous disent qu'il y a un mouvement plutôt à la droite de l'échiquier politique, mais que les centres de gravité de la politique européenne, qui est cette grande entente entre sociaux-démocrates, chrétiens-démocrates et libéraux, continueraient à tenir une majorité au Parlement européen. Et c'est important parce qu'à la fin de fin, il faut construire un consensus. L'Europe est faite sur la construction des consensus. C'est pas sur les extrêmes qui se joue l'Europe. L'Europe se joue au centre. Et donc, c'est important de garder ce centre de cet échiquier politique pour les futurs de l'Europe, pour les discussions sur la compétitivité, sur l'intégration des secteurs qui vont faire notre force économique de demain, sur l'Europe sociale, sur les changements climatiques. Ce centre de l'échiquier est essentiel. Et c'est de là qui va dépeindre les futurs de l'Union européenne.
Alors, la Commission européenne a proposé en janvier de prolonger les exemptions de droits de douane sur les produits ukrainiens jusqu'en 2025. Mais en même temps, il y a un mécanisme d'urgence permettant de rétablir des tarifs douaniers sur les volailles, les œufs, le sucre et peut-être on réfléchit sur le blé. Est-ce que on est tout à fait fair-play avec l'Ukraine si on la pénalise du côté agricole alors qu'on lui envoie de l'argent par ailleurs?
Non, je crois qu'aujourd'hui, il faut avoir les idées claires concernant les soutiens à l'Ukraine. Et d'ailleurs, les citoyens, quand on regarde les enquêtes, les sondages, ils sont assez clairs, les citoyens européens. Malgré le fait qu'on a douté de leur soutien vis-à-vis de l'Ukraine, ils le démontrent sondage après sondage, ils savent que pour l'Union européenne, aider l'Ukraine aujourd'hui, cela veut dire aider l'Union européenne aujourd'hui. Aider l'Ukraine à se protéger de l'agression russe et mieux protéger les citoyens européens. Et ça, il faut le faire à la fois d'un point de vue économique, comme l'Union européenne l'a fait constamment, sur le plan militaire, parce que c'est l'Ukraine qui doit lutter.
Et le secteur agricole,
alors. Pour expulser l'agresseur russe. Et il faut aussi l'aider du côté des exportations ukrainiennes qui constituent quand même la manière dont l'économie ukrainienne peut continuer à tourner, y inclus dans les secteurs agricoles.
Donc on est un peu hypocrite.
Je crois qu'il faut être un peu plus cohérent.
Alors, tournons-nous vers votre pays de naissance, hein, l'Espagne. En Catalogne auront lieu des élections régionales le 12 mai, alors que le gouvernement Sanchez a fait voter une loi d'amnistie justement pour les indépendantistes. Le président catalan est en train de faire monter la température en déclarant qu'un référendum sur l'indépendance est inévitable. Qu'est-ce qui va se passer exactement en Catalogne ?
Bon, je crois que le choix des électeurs, c'est assez clair. Si on regarde les sondages en Catalogne, on a une majorité des citoyens qui est en train de demander aux partis politiques de s'occuper de leurs problèmes. Alors, quels sont les problèmes de Catalogne aujourd'hui ? C'est les très mauvais scores en matière d'éducation dans les derniers rapports de l'OCDE des PISA. La Catalogne étant le territoire espagnol avec la moindre quantité d'énergie renouvelable. Un système sanitaire qui n'a pas très bien fonctionné pendant la Covid, les pouvoirs d'achat. Donc tout ça, c'est les problèmes des citoyens catalans.
Et ils nous le disent. Moins que l'indépendance, vous dites. Mais il n'empêche que ce gouvernement Sanchez, nouvelle formule, il doit être soutenu par les indépendantistes catalans. Est-ce qu'il va perdurer ou est-ce qu'il est fragile ?
Non, je crois que c'est le... On ne peut pas à la fois vouloir la démocratie et ne pas écouter les résultats des citoyens catalans. Je crois que les pactes, c'est un pacte qui est difficile, comme tout consensus, qu'il faut nourrir tous les jours. Mais je crois que ça serait un peu illogique, d'ailleurs, de vouloir ces pactes seulement quand les citoyens disent une chose et ne pas le vouloir quand les citoyens veulent des solutions à leurs problèmes. Donc je crois, laissons les citoyens catalans parler. Je crois qu'ils vont être assez clairs. Et si j'étais un parti politique qui prenait pour l'indépendance, j'essaierais très à l'écoute de ce qu'ils disent mes citoyens. C'est pas ça les principaux problèmes.
C'est avant les élections européennes, donc un mois avant. Merci à vous d'avoir été notre invité, Arantxa González-Laya. Merci à vous de nous avoir suivis sur France 24 et Radio France Internationale. Restez sur nos antennes.